Le hérisson, ce petit animal trop mignon qui peut se rouler en boule et pique si vous le touchez, est en voie de disparition en France.
CO2, mon amour.
En 20 ans, leur nombre a chuté de 70%, la même proportion que celui des fans de la Rousseau. En cause, les pesticides, ce poison qui fait aux cultures ce que l'esthéticienne ferait aux sourcils de Raymond Domenech s'il se décidait à sauter le pas. Il y retire toute vie.
Avec Denis Chessou.
Les hérissons d'ici 20 ans pourraient disparaître, hein, et tous les autres animaux derrière. Mais attention, sans animaux, c'est pas pareil. Hein, sans animaux, le film L'Ours, c'est juste l'histoire de chasseurs qui tirent 3 heures sur des sapins. Sans animaux, Danse avec les loups, ça devient Danse tout seul. Un film sur le mec bourré, le seul qui danse à la fête de la musique, devant un groupe de reprises de Linkin Park au xylophone. Sans animaux, il n'y aurait que des humains.
Sur France Inter.
Ce serait un enfer. Vive les hérissons!
Absolument. Merci, cher Tanguy Pastoureau. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature avec un panier de solutions. Et ça, ça va nous faire aussi du bien. Alors, on va pas partir dans le Lyonnais qui était cher à Bocuse, mais on va partir dans la Drôme, dans la Biovallée, donc qui nourrit les hommes. Ce sera donc le thème principal de cette émission. Vous allez voir, c'est assez passionnant parce que c'est une histoire d'hommes, de solidarité et d'alimentation. Anne-Laure Cochet, Gilles Gaillard à la technique aujourd'hui, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors, une petite actualité. Fin de la pêche électrique à Notre-Dame-des-Landes, deux bonnes nouvelles pour le prix d'une cette semaine. Alors d'abord, il y a eu un murmure dans le bocage. C'est le merle et le rossignol qui ont commencé. Hey, pour les printemps à venir, notre nid, on va recommencer.
Quoi ?
Notre nid, on va recommencer. Et les avions ailleurs iront se poser. Oui, ça y est, on y est arrivé avec les femmes, les hommes qui ont résisté. Le bocage plein de vie va continuer, l'eau de filtrer, de nourrir les bêtes, les hommes, les oiseaux, les solidarités. Le triton, le sonneur à ventre jaune, sortir la tête de la boue. La loutre endormie sortie de sa catiche. Et puis, le murmure s'est amplifié. Bien avant le printemps, le bocage se mit à chanter. Notre nid, nos abris, on va recommencer, notre nid, nos abris, on va recommencer. Et puis, ils vont bien trouver autre chose, les hommes. Hein, il n'y a pas que le béton dans la vie, ils sont intelligents. Eh, combien d'aéroports en Bretagne? 9? Et ça leur suffisait pas? Ils sont tous déficitaires, dites donc. Ah ouais, Nantes inclus, hein, si on tient compte des aides aux compagnies. Et puis tenez, mes copains canards sur le lac Léman, ils m'ont dit qu'à Genève, avec une seule piste, bah ils transportent 17 millions de passagers. Ah ouais? Et mon copain le Chouka, moi à Londres, il m'a dit qu'avec deux pistes, bah ils transportent 78 millions de passagers. On n'est pas plus bête qu'en France, hein, en France. Ah ouais, mais attends, il y a un truc que tu piches pas, a dit la loutre. Derrière l'aéroport des Landes, il y avait surtout l'extension immobilière de Nantes. Ouais, des nids, des terriers pour les humains, mais qui coûtent une blinde. Ah ouais, c'était ça aussi le projet. La raison fait certes une consultation, hein, mais en regardant le découpage de la dite consultation, on avait déjà le résultat. Monsieur Valls était très content de son découpage. Monsieur Hérault, Madame Johanna Roland aussi. D'ailleurs, elle devrait être très contente, Madame la maire de Nantes, puisque dans ses discours de campagne, elle disait « Préserver les ressources de notre planète, sa biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique sont autant de défis à relever pour l'avenir de nos enfants. » Elle doit donc être très heureuse de cette décision censée en accord avec ses propos, en phase avec la réalité du 21e siècle. Ouais, mais tu sais comme ils sont, hein, ceux qui pensent ce grand projet inutile avec leur logiciel de sortie de la guerre. Lutter contre l'effet de serre, bah ouais, mais quand même pas trop. Et puis, de mémoire de milliers de nichées d'oiseaux, c'était un projet de l'ancien temps. On parlait le Concorde, on parlait en nouveau franc. Et puis, 3 milliards quand même pour la LGV Paris-Nantes et puis Rennes et même si on nous a fabriqué des crapauducs hein, pour rejoindre nos copains, nos copines, bah, ils n'ont pas eu à se plaindre quand même, nos amis bretons. Alors, la suite, c'est quoi? Pour Veni, Vidi, Vinci, ça t'en fait pas, ils sont déjà passés à autre chose, ils gardent la concession de Nantes Atlantique, ils vont négocier d'autres travaux, tout va bien. Et la suite, bah, on ne sait pas. Mais il ne faudra pas rater la sortie de piste du bocage au printemps qui vient. L'écologie, certes, est un sport de combat, mais ce serait bien, cette fois, d'éviter la castagne. Alors, tu vas voir, ils vont trouver ensemble, ouais, j'en suis sûr, ils vont innover en laissant enfin cette terre, le bocage et la nature respirer. Alors je vous l'ai dit, donc émission, je veux dire spéciale en fait, tout reportage dans la Drôme, dans cette bio-vallée. Ça va être donc le thème principal et on aura donc différents acteurs. J'espère que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti en musique avec Michel Jonas.
France Inter, CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
J'ai peur de couver quelque chose, disait la terre à l'archange du Père éternel. On m'a mis des hommes sur le dos et ça me démange, disait la terre. Pitié pour le petit personnel. Dites au grand patron qui se dérange, j'ai des misères. J'ai peur de la sale migraine. Je tourne encore mais je tourne à la catastrophe, disait la terre. Alors que tous les supérieurs se ramènent et les hommes chantaient. On a mangé des tonnes de viande, picolé des tonnes de tonneaux. Combien d'orgasmes on se demande a-t-on atteint. Liste et leur riserie, si on veut l'être aussi. On voit tout ce qu'il faut pour ça ici. Combien de guerres brûlantes en tout a-t-on éteint. T'arrives petite, disait le père à la terre. C'est un léger malaise ma belle. Tous ces brigands aveugles, sur faiseurs d'histoire, princes et bergères. Ce sont nos enfants, je te le rappelle. Moi c'est les gambettes qui me démangent, disait le père. Dansons et oublie ta sale migraine. La chance qu'on a de vaincre, c'est comme ça à l'infini, là dans les airs. Allez, que toutes les planètes se ramènent. Et les hommes chantaient. On a mangé des tonnes de viande, picolé des tonnes de tonneaux. Combien d'orgasmes on se demande a-t-on atteint. Liste et leur riserie, j'en veux l'être aussi. On fera tout ce qu'il faut pour ça ici. Combien de guerres brûlantes en tout a-t-on éteint. C'est leur riserie, j'en veux l'être aussi. On fera tout ce qu'il faut pour ça ici. Combien de guerres brûlantes en tout un temps éteint.
La Terre et le Père Jonas, choisi avec justesse par Muriel Pérez, notre programmatrice. Je vous emmène donc aujourd'hui dans cette bio-vallée. Alors, le lieu, nous sommes dans le département de la Drôme. Vous avez Livron, vous avez Eure, Saillant, le Diois, pays de Clairette. Et alors, au départ, des gens extérieurs, des Hollandais, des Suisses, des Allemands. Alors, il y a aussi beaucoup de Français, donc des néo-ruraux qu'on appelait des babas, pas encore des bobos. Donc, des profs, des intellectuels, donc une communauté. Et les gens sont venus là, pourquoi? Parce que d'abord, il faisait beau, parce que le coin est beau, le climat est sain, il y avait une volonté, il y avait une terre qui était pas chère, on n'était pas loin donc des grands axes. Donc, tous ces gens-là ont un peu quand même remonté des ruines. Et puis, on est aussi, c'est très important ça, on est quand même sur une terre protestante. Ça veut donc dire que l'on sait accueillir, que l'on sait intégrer les gens d'ailleurs. Alors, on a inventé beaucoup de choses. On a inventé du circuit court, on a vraiment popularisé le bio, la transformation, etc. Donc, on a eu à la fois une grosse phase de désertification, les gens partaient dans les villes, une opportunité de financement sur la bio et un projet politique qui est porté par la communauté de communes du Val-de-Drôme, qui a donc fédéré les agriculteurs, qui a créé des emplois, des entreprises. Et pour vous donner un petit peu juste deux, trois chiffres, si vous voulez, en France, agriculture bio, c'est à peu près 4-5%. Bon, 8% région Rhône-Alpes, 17% dans la Drôme et 32% dans cette bio-vallée. Alors, on va avoir Perrine Tavernier, qui est un peu notre fil rouge, chargée de mission agriculture et alimentation dans cette communauté du Val-de-Drôme. Et puis Jean Serré, qui est donc le président, parce que c'est aussi un petit peu l'âme de cette affaire. Il n'a pas été seul, mais quand même, il l'a porté. Et je dirais qu'avant de conquérir son alimentation, il y a d'abord eu le sauvetage d'une rivière qui était polluée, qui s'appelait la Drôme. Donc, on a réussi à faire ensemble, avec des sensibilités qui étaient différentes. Et donc, voilà, on est face à cette rivière, donc avec Jean Serré, avec le slogan donc de l'époque.
Le slogan de l'époque, c'était « rendre la rivière baignable ». Aujourd'hui, vous pouvez arriver avec votre voiture au bord de la rivière, vous prenez votre serviette de bain, vous pouvez aller vous baigner dans cette rivière.
Et vous passez maintenant à un autre slogan concernant l'alimentation.
C'est rendre notre alimentation saine et faire du Val-de-Drôme un garde-manger pour notre département.
Quelle a été en fait la vision politique de cela? Comment se décide une bio-vallée?
Ben, ça a demandé 10 années, 15 années d'échanges avec aussi des personnes de l'étranger qui travaillaient sur le développement durable.
Vous avez eu aussi pas mal de néo-ruraux qui sont arrivés, vous avez eu des 68 heures, donc ça a été un lieu d'expérimentation parce que déjà il y fait bon vivre. Et puis aussi parce que c'est une terre d'apport. Quoi.
C'est une terre d'apport et de pionnier. Et quand on est un pionnier dans un territoire, on apporte son envie de partager et de faire progresser et de laisser une trace quelque part. Toutes ces énergies, toutes ces personnes, nous sommes arrivés à peu près au même âge dans le département, dans la vallée. Et nous avons pu arriver à des lieux de responsabilité, soit dans des associations, soit dans des entreprises, soit dans les communes. Et on avait, jeunes, quelque part, t'étais le même biberon, on avait les mêmes valeurs de conduite de notre vie et de partage. Parallèlement à cela, on s'est, en réfléchissant un petit peu, après des repas, après bureau ou après conseil, il y a toujours des moments où on se lâche et puis on lance des idées, que à travers l'eau, on touchait à des éléments qui étaient essentiels. On allait aussi travailler sur l'énergie, donc un autre élément essentiel à la vie, et puis la terre et donc la nourriture qui était issue de cette terre.
Voilà, il y a à côté un peu cinquième élément de Besson. Hein, là.
C'est tout à fait le cinquième élément de Besson. Nous, c'était l'empathie. C'était comment est-ce qu'on peut arriver à motiver les gens par l'empathie, par l'envie de nous suivre. Et ça a été le challenge qu'on a relevé et j'estime qu'on a gagné.
Allez, changement de lieu sur la commune de Vonnavet. Et là, je vois quoi? Brin de terroir. Et à Brin de terroir, nous accueille Nicolas Cosiel. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors Nicolas, donc vous faites partie de ces maraîchers bio. Quel âge vous avez?
31 ans.
Et aujourd'hui, donc vous faites partie de ces maraîchers qui livraient bien sûr en direct. Et puis vous livrez aussi donc une plateforme qui s'appelle Agricourt.
Voilà, tout à
fait.
Alors
racontez-nous, qu'est-ce que c'est?
Alors Agricourt, donc c'est une plateforme qui fait le lien entre les agriculteurs du territoire et les habitants et les professionnels de la communauté de communes là, du Val-de-Drôme essentiellement. Et donc nous, maraîchers, pour nous, enfin en tout cas nous sur la ferme, ça nous importe beaucoup de travailler avec Agricourt parce que ça permet d'avoir ce lien avec notamment toutes les cantines scolaires du territoire. Et ça, c'est important pour nous là de fournir un petit peu les enfants, que les enfants puissent manger les légumes de nos fermes. Agricourt nous apporte cette plateforme logistique qui est hyper intéressante pour nous, pour toucher des clients qu'on ne pourrait pas toucher tout seul dans nos fermes.
Et alors à nos côtés aussi, Florent Dalmasso. Bonjour Florent.
Bonjour.
Florent, vous êtes donc le directeur, vous aussi, donc d'Agricourt aujourd'hui. Vous fédérez combien donc d'agriculteurs?
On a quotidiennement une soixantaine de producteurs au téléphone. Et puis sur l'année, avec les saisons, ça fait une bonne centaine.
Donc ça marche bien parce que donc vous arrosez après, on va dire, combien de cantines, combien de communes?
Alors c'est aujourd'hui, on a dépassé l'agglomération de la communauté de communes du Val-de-Drôme. On est sur Drôme et Ardèche et on distribue des crèches aux lycées en passant par les établissements pour adultes, les établissements de santé et sociaux. Ça fait à peu près entre 150 et 200 établissements.
Alors quel est l'état d'esprit? Ça marche évidemment à la confiance, ça marche à la qualité
Le projet Agricourt, c'est d'être au service, entre guillemets, d'être des cantines pour les producteurs. Ça veut dire que on marche à la confiance, on travaille pour les producteurs in fine, pour les papilles des enfants, etc. L'idée étant de travailler avec des petites fermes, essentiellement sur le Val-de-Drôme, et puis de mettre en valeur leurs produits. Et ça va effectivement du maraîchage avec des fruits et légumes avec Nicolas, par exemple, à la viande avec Thierry. Ça va aussi sur les produits laitiers, l'épicerie, les lentilles locales, etc. Aujourd'hui, on est capable de faire un menu entier uniquement en bio local et en local. Il n'y a plus d'excuse de dire c'est pas possible de se fournir en local et en bio local.
Perrine Tavernier, moi je me retourne vers vous, hein, donc chargée de mission, donc agriculture ici dans cette communauté donc du Val-de-Drôme. On dépasse, on va dire, l'agriculture biologique. On est sur un projet de territoire, mais avec quand même l'alimentation qui chapeaute tout cela.
Ah oui, parce que pour des élus locaux dans une communauté de communes, l'intérêt c'est de travailler à l'intérêt général. Et autant quand on parle d'agriculture, parfois ça, il y a des personnes qui ne se sentent pas concernées parce que ça leur semble loin de leur mode de vie ou de leurs préoccupations. Autant quand on parle d'alimentation, on est tous et toutes, ben on mange plusieurs fois par jour et voilà. Donc c'est une façon de reconnecter en fait les habitants à l'agriculture, aux agriculteurs et aux agricultrices de la vallée. L'alimentation, finalement, c'est devenu un sujet hyper fédérateur que les élus se sont appropriés et des projets comme AgriCours, des plateformes comme ça, qui proposent des solutions logistiques, c'est vraiment des maillons sans lesquels on ne pourrait pas mettre en place des systèmes alimentaires de territoire et sans lesquels on ne pourrait pas prétendre à une alimentation de qualité et locale pour tous.
Parce que parfois on va vous dire, bah attendez, le cahier des charges par exemple des grandes surfaces et puis celui que vous avez est le même. Bah, pas complètement.
Le cahier des charges en tant que tel, si, parce que c'est un cahier des charges européen.
Ouais,
après, ce qui est important, c'est de faire comprendre aux personnes qu'un cahier des charges, ça suffit pas. Le cahier des charges, là, il parle juste de mode de production. Et ici, les agriculteurs qui sont soutenus par la plateforme AgriCours, par exemple, c'est bien plus qu'un mode de production. C'est des modes de vie, c'est des choix de... Et nous, pour notre territoire, on n'a pas envie d'avoir une bio-industrielle où les fermes feraient 150, 200 hectares. Ce qu'on veut, c'est des fermes nombreuses, des paysans qui s'épanouissent dans leur travail. Et c'est à ça qu'on travaille.
Florent Dalmazo, on a aussi, grâce à AgriCours et puis d'autres évidemment plateformes en France, une différence sociale quand même qu'il a.
Oui, en fait, la démarche d'AgriCours, elle essaye d'être globale, dans le sens où on essaye d'avoir un prix rémunérateur pour c'est-à-dire un prix plus élevé d'achat aux producteurs. Alors après, on réfléchit, mais comment ils font pour acheter plus cher? Ils vendent plus cher? Bah, pas forcément. En fait, on a un système qui est à l'inverse des industriels, qui est un système en circuit court, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a une commande, on mutualise les commandes des clients, des chefs cuisiniers, etc. Ensuite, on passe commande, et ensuite, les producteurs récoltent, on ramasse chez eux ou ils nous livrent, et ensuite on livre. Ça veut dire qu'en fait, on ne fait pas de stock. Les industriels, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des grosses quantités en tirant les prix au maximum sur les producteurs. Ensuite, ils accumulent ça en stock, donc les fruits et légumes sont pas mûrs, ils les stockent pendant très longtemps, et puis après ils font du phoning agressif, et ils bradent les prix en faisant constamment des promotions. Et donc celui qui trime à la fin, c'est le producteur. Donc nous, en gros, au lieu de jeter 30% des fruits et légumes qu'on achète, et au lieu de faire des promotions, on vend au vrai prix des choses, à la vraie valeur des choses, on conserve 30% de ce qu'on jette, et ces 30%, eh ben, on les distribue aux producteurs.
Ah, une petite arche de pierre. On passe dessous. Perrine, qui nous servait donc de guide, Perrine Tavernier, nous arrivons où?
Alors, nous sommes à la Maison familiale et rurale de Divageux, un centre d'enseignement sur les métiers liés à la ruralité et à l'agriculture. Et c'est aussi un lieu qui héberge l'antenne France du FIBEL, qui s'est installée ici il y a 2 ans. Et nous sommes avec Florence Arsenault, qui va nous expliquer un petit peu l'état de la recherche et les travaux qui sont en cours dans la Biovallée.
Qui est derrière le FIBEL?
Alors le FIBEL, c'est une fondation privée suisse avec différents types d'administrateurs. L'essence même du FIBEL, c'est des agriculteurs qui sont réunis parce qu'ils ne trouvaient pas de conseils suffisants en agriculture biologique. Donc ils se sont réunis, au début ils étaient 4-5, pour pouvoir se payer un conseiller en agriculture biologique et avancer dans leurs recherches et leurs questionnements. Et au fur et à mesure, ça a grandi pour devenir maintenant un institut avec 130 chercheurs. Et en Drôme, on est arrivé parce qu'on a commencé à avoir des liens assez forts avec des éleveurs du syndicat Caprin qui travaillaient depuis plusieurs années sur différents mélanges de plantes pour essayer de soigner leurs animaux contre des parasites internes.
Donc c'est du mélange d'expérience qui se passe,
c'est
véritablement.
Exactement ça, c'est des éleveurs qui expérimentent eux-mêmes certaines pratiques pour soigner leurs animaux, mais qui sont arrivés à un moment d'un besoin d'une validation scientifique de leurs pratiques. Donc ils ont fait appel au FIBEL, qui ont un expert parasitologue qui travaille beaucoup en aromathérapie, en phytothérapie sur les ruminants. Donc le FIBEL est venu en appui pour mettre en place des protocoles assez simples directement sur la ferme et avec les éleveurs pour tester ces mélanges. Alors on a testé des huiles essentielles, mais on a testé aussi des affouragements comme le sainfoin, qui est une plante qui peut avoir des effets intéressants contre ces parasites de manière préventive. Voilà, donc des approches préventives ou curatives avec différents types de plantes extraites différemment.
Ah, alors là, autre lieu, petit platane, petite cour. Et où sommes-nous à Cray, Perrine?
Alors nous sommes à Cray, sur le siège de l'association de maisons d'accueil protestantes pour enfants, où nous accueille Aïcha, qui est la cuisinière, qui participe au programme Ça bouge dans la cantine, en fait on accompagne les cuisiniers et cuisinières motivés dans le développement de l'approvisionnement local et bio.
Et qui sont donc alimentés par AgriCours que l'on a vu.
Tout à fait.
Bonjour Richard.
Bonjour.
Alors là c'est bien parce qu'on est presque devant vos pianos comme on dit.
Oui.
Alors comment ça s'est passé pour vous si vous voulez donc de vous mettre au bio?
Ben, ça faisait longtemps que mon chef de service et le directeur de la maison d'accueil avaient ce projet-là d'intégrer du bio et du local chez nous.
Ouais. Et vous y avez adhéré?
Bien sûr, tout de suite.
Vous avez été assez enthousiasmé.
Oui.
Quelle est la différence quand on travaille du bio?
Déjà, les saveurs sont pas les mêmes. Hein. Quand on fait des carottes bio, on sent tout de suite la différence. Surtout, nous, ce qui nous importait, c'était faire du local. Parce qu'on trouvait ça important de faire travailler les petits agriculteurs du coin.
Aujourd'hui, maintenant, le résultat, c'est quand même ce qui se passe dans l'assiette. Et si l'assiette est finie, c'est un des plus beaux compliments.
Ben, ils posent des questions, ils demandent ce que c'est, d'où ça vient. Puis quand c'est du bio, moi, je leur précise bien. Par exemple, au niveau des laitages, au départ, ils ne voulaient pas goûter du bio. Puis maintenant, ben, ils en redemandent.
Combien aujourd'hui donc avec ce programme-là donc de cantine, programme d'ailleurs qui a été donc soutenu par la Fondation Carasso, sont maintenant concernés par cela?
Bien nous, sur 30 communes sur la communauté de communes du Val-de-Drôme, il y en a 25 qui sont engagées dans la démarche.
Ouais.
C'est un programme qui est ambitieux parce que et qui est complet parce qu'on fait de la formation pour les cuisiniers, mais on met aussi en place des commissions restauration avec cuisiniers, parents d'élèves, élus, directeurs d'école, etc. On met en place un programme pédagogique avec des agriculteurs qui interviennent dans les écoles, des jardins potagers qui sont mis en place dans toutes les écoles et puis des visites de ferme. Donc voilà, c'est un accompagnement assez rapproché pendant un an. Et en fait, le partenariat avec les MEX qui se développe beaucoup grâce à Aïcha et depuis la rencontre qu'on a eue avec Aïcha, c'est pour nous le premier accompagnement d'une structure de restauration collective hors cantine scolaire. Et donc pour nous, on souhaite vraiment rentrer aussi dans les structures médico-sociales et accompagner pour que en fait tous et toutes puissent accéder à des produits locaux et bio, et notamment les publics de ces établissements-là.
Est-ce que vous aviez une appréhension sur le bio avant de le connaître?
La seule appréhension qu'on pouvait avoir, c'était le côté financier du bio. Et puis bon, là, on s'aperçoit que en fait, c'est pas vraiment un problème. Notamment si on essaye de réduire d'un côté la viande, et ben pour compenser par acheter un peu plus de bio.
Donc de protéines végétales.
Voilà, exactement. En fait, on consomme trop de protéines animales, et du coup, ben on essaye de réduire. Les quantités, mais c'est pas facile, c'est pas simple. Avec les jeunes, c'est pas simple.
Pascal Ouvillier, alors vous êtes le directeur vous, de cet établissement. Ça fait combien vous avez de personnes ici?
Alors combien de personnes? On a des enfants et des adultes. Des enfants qui vivent ici, qui sont placés ici par les associations de l'enfance. La justice aussi, dans le cadre de la protection de l'enfance. On a 24 enfants. Ces enfants, ce ne sont pas que le nourrir, c'est aussi l'apprentissage du goût, c'est aussi leur faire découvrir de nouvelles saveurs. Des enfants qui, bien souvent, ont eu de mauvaises habitudes alimentaires, qui ont été aussi des fois dans la précarité, leur faire découvrir des produits qu'ils n'ont jamais goûté. Et avec la démarche avec la CCBD, c'est d'aller plus loin, d'aller effectivement vers le bio, des circuits courts, et pouvoir transformer un peu notre façon de travailler.
Belle opération, hein. Donc ça bouge dans ma cantine avec cette bio-vallée, donc dans ce département de la Drôme. Donc à suivre, nous allons partir, nous aurons rencontré une chevrière dans la forêt de Soux, en tout cas au pied, les compagnons de la terre, Hugues Vernier, Amandine, nous allons aller sur le marché de Craie, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai sûrement un herboriste aussi du Diois, le tout sur France Inter, dans votre magazine de nature et d'environnement.
J'aimerais un son, une fusion. Ni être un homme, ni être une femme. Y a-t-il un nom, une solution? Dans ma langue, ça s'appelle une âme. Corona maubena, kube bene aranini. Tilebi maubena, kube bene aranini. Kete du mina, neve aranini, yababu. Monte en moi cette sensation. Je me sens vivre comme je suis. Je suis pas un homme, je suis pas une femme. Juste une âme, une âme, une âme.
du sexe, d'un amour surex. Je voudrais du vrai, pas que la vérité. Mais toute cette tendresse comme une caresse. Une âme, une âme, une âme. Une âme, une âme, une âme. Une âme. Un fil comme un funambule, perdu dans la ville, on pleurait, on priait.
Tu te souviens quand on allait faire du cerf-volant au parc? On se débrouillait bien tous les deux. Il montait haut, très haut. Ça t'épatait. Tu vois, la vie, la mort, ça nous dépasse tous. C'est comme le cerf-volant.
CO2, mon amour.
On croit qu'on le maîtrise, mais en fait, c'est le vent. Juste le vent.
Denis Chessou.
Et donc, à nous tous de prendre le bon vent. Vous êtes bien sur France Inter, CO2 Mon Amour, dans cette bio-vallée, dans le département de la Drôme. Le Vercors n'est jamais très très loin. Cette très belle sentinelle de calcaire. Et alors, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Ah bah, attendez, moi j'ai des compagnons de la Terre, j'ai, je vous dis, un marché. Et alors, ah oui, 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 du picodon. Vous le voyez, le picodon? Donc, ça veut dire que derrière le picodon, il y a accessoirement des chèvres. Eh ben oui. Et il y a Inès de Rancourt. Alors, Inès de Rancourt, elle est agricultrice. Elle est éleveuse de chèvres à Saou. On dit Sou, voilà. Et donc, la ferme d'ailleurs s'appelle la chèvre qui Saouri. Vous voyez, c'est le jeu de mots, ça s'écrit S-A-O-U. C'est très beau. Vous avez une forêt extraordinaire. Ça, j'y reviendrai une autre fois. Cette femme est pompier volontaire. Elle est accompagnatrice en montagne. Elle adore la pédagogie. Elle fait partie du réseau Accueil Paysan. Et nous la rencontrons, elle aussi, dans cette bio-vallée, avec ses chèvres bio.
En ce moment, là, Mathilde est en train de faire la traite, ouais. Et là, on est en pleine période des amours. Donc notre bouc s'en donne à cœur joie. Il est vraiment en pleine forme, il n'arrête pas de faire des câlins aux chèvres. Il est très affectueux, en fait, ben c'est
oui,
très rigolo.
C'est ça. Donc alors c'est un bouc bio aussi comme les chèvres.
C'est un bouc bio comme les chèvres.
Ouais. Alors quand ouais. On parle effectivement de bio, ça veut dire que là je vois donc tout cet herbage. Donc cet herbage est bio.
Ah oui, ça c'est nous qui le produisons en plus. Donc ouais. On est certain que c'est du bio, oui.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre pour que ce soit bio? Donc il y a donc l'herbage, mais quoi d'autre?
Les animaux en soi. Et puis après tout le matériel qu'on utilise en fromagerie. Mais essentiellement, c'est ce qu'elles mangent, et puis après, comment elles sont soignées aussi.
Alors là, elles sont soignées comment, celles-là? Je sais aussi que vous avez des méthodes naturelles, non? Ou...
Alors, on utilise un maximum les huiles essentielles, l'homéopathie, et puis il y a des fois où on n'a pas le choix, on utilise aussi du conventionnel, mais la plupart du temps, on essaye de faire beaucoup de prévention avec des huiles essentielles, essentiellement.
Inès de Rancourt, donc derrière tout ça, il y a quand même une certaine... Oui, je fais attention aux crottes. Comment s'est passé pour vous, en fait, le passage donc, à cette agriculture? Alors, c'était un peu un rêve, hein, que vous aviez.
Oui, c'était un doux rêve que moi, je pensais pas pouvoir toucher parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de terre. Et je me suis dit, ben, c'est un doux rêve que peut-être un jour reviendra. Et Daniel, et ben lui, par contre, il avait les terres, il avait un peu d'argent et il avait cette envie de changer complètement, de prendre un virage dans sa vie professionnelle.
Alors, c'est le cas de le dire parce qu'il était un peu dans la course automobile avant.
Ouais, il était, il travaillait dans le rallye auto, donc ouais. Virage à 360 et c'est que du bonheur. Enfin, vraiment, on a une vie très prise, on a un rythme assez dingue, mais pour rien au monde, on retournerait en arrière. Ah, tu vois le bouc, il est en pleine forme.
Oula, oui.
Il a la langue un petit peu tirée.
Bah, je comprends.
Hein. Et puis il retrousse il retrousse un peu les langues. Babines, comme ça, oui. Et, en fait, c'est comme ça qu'il sent les hormones des autres chèvres. Et les chèvres aussi font ça parfois. Alors c'est très animal tout ça, hein, mais en même temps, c'est plein de douceur. Ce bouc, il est vraiment super gentil. Bon, pas avec nos deux jeunes boucs, mais ça c'est normal.
Ah bah, ça c'est, oui, quand même un territoire à défendre et un cheptel à défendre. Hop.
Bah alors en fait, je réfléchissais hier qu'il n'a pas de nom, donc comme on a deux petits cochons, la France et culture, je me demande si lui je l'appellerais pas Séchou. Voilà. Là, c'est dommage qu'on n'ait pas les odeurs à la radio.
En plus, c'est de la bonne odeur, quoi.
C'est du pur.
C'est du fort, mais c'est ça. Ouverture de la porte et là, grand maman, elles se sont toutes massées et hop.
Dans les bois,
on y va. Allez manger des glands, les filles. Les glands vous attendent. Ah, un autre lieu. Les compagnons de la terre. Donc là, il y a la boutique. Alexandre Morin, alors là, racontez-nous. Parce que donc vous faites partie donc de l'association des compagnons de la terre.
Oui.
Vous avez expérimenté.
C'est ça, je suis encore en train d'expérimenter. Je suis en test agricole, ouais. Sur du maraîchage.
Alors, vous veniez d'où au départ ?
Haute-Savoie. Et je me suis installé ici dans la Drôme pour justement tester mon activité. Parce qu'en Haute-Savoie, je n'avais pas cette possibilité-là.
Ça veut donc dire qu'en fait, on a un peu le droit à l'erreur, quoi. On essaye, on teste, on voit ce qui va, ce qui ne va pas.
Oui, c'est ça. Bien sûr, on a droit à l'erreur. C'est aussi pour éviter de partir dans des gros investissements, ouais, et se retrouver au bout de quelques années noyé par les dettes ou les, ouais, choses comme ça.
Donc en culotte courte, quoi, voilà. Voilà. Hugues Bernier, vous qui êtes quand même le monsieur agriculture à la communauté de communes du Val-de-Drôme, bon, vous devez être assez content, ça fait une trentaine d'années que vous êtes là. Si, cette idée-là, évidemment, vous l'avez portée, vous aussi, de se dire, ouais, lançons-nous, mais essayons de tester avant.
Ah bah oui, parce que nous, ça fait, au niveau de la communauté de communes, ça doit faire 20 ans ou 30 ans qu'on essaye d'installer des gens, enfin qu'on essaye, qu'on accompagne, c'est, oui, pas... Et en fait, à chaque fois, il y avait toujours un facteur de blocage qui n'allait pas, pourquoi on n'arrivait pas à installer des jeunes, des nouveaux. Et on s'est aperçu que les facteurs de blocage étaient plusieurs points. Entre autres, les jeunes qui viennent pas, qui sont pas du milieu, bah ils connaissent pas le milieu, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de foncier. Un propriétaire, il a du mal à louer ou à vendre à un jeune. Et là, ça n'allait pas. Et on trouvait pas de solution. Et donc, avec les élus de la collectivité, la communauté de communes, on s'est dit, bah tiens, on va essayer de mettre à disposition du foncier. Chaque jeune a 2 hectares pendant 2 ans ou 3 ans. Et il teste, il fait son réseau, il teste s'il a envie, il apprend, il crée sa crédibilité. Et puis par rapport à un propriétaire, le propriétaire qui voudra lui louer, a priori, lui, il sera très content parce qu'il aura eu entendu,
il
aura
rassuré. Vu, oui.
Il sera rassuré. Il se trouve qu'en plus, eux, ils vont tester leur outil de commercialisation. Et quand ils commercialisent, ils sont en contact aussi avec des gens qui sont potentiellement propriétaires. Et là, c'est tout un réseau. Et finalement, nous, le constat qu'on fait, c'est que tous les gens qui sont passés, les jeunes qui sont passés par là, ils ont un réseau vachement important. Après, nous, il y a des gens qui sont installés ailleurs, dans d'autres territoires, mais c'est pas un problème. C'était vraiment la notion de test et la notion de dire, si on veut développer la Biovallée et si on veut développer l'agriculture sur le territoire, il faut qu'il y ait des jeunes.
Mademoiselle Dumaise est probablement une des meilleures candidates du centre de formation. C'est une fille qui bosse, hein, qui a de l'énergie.
Vous êtes mariée ?
Pas d'homme, pas d'enfant.
Si vous vous installez sans homme, vous ne tiendrez pas longtemps. Les gars, du coup, ils sont pas nombreux, ils comprennent après les femmes qui se lèvent à 5 heures pour traire les chèvres.
Contrairement à ce que vous pensez, monsieur, je suis pas une petite gamine de la ville qui vient faire un petit tour dans l'agriculture sur un coup de tête.
Périne, ferme des 4 vaches. C'est incroyable, ça, 4. Il en manque 996 pour faire les 1000 vaches.
Et ben voilà, c'est ça. Il y a des fermes usines à 1000 vaches et puis il y a des fermes à 4 vaches.
Ouais.
On va aller voir Amandine qui va nous expliquer le projet.
Tac, tac, tac. L'usine à 4 vaches. Ah oui, il est dedans. Il y a le panneau là. Bonjour.
Amandine.
Ça c'est pas une vache. Oui.
On peut rentrer?
Ah oui, non, ça c'est un labri, là, tu peux. À propos de l'abri, on va s'y mettre, nous aussi. Allez, hop. On s'embrasse pas parce que vous êtes malade, Amandine, c'est ça?
Oui.
Ah, d'accord. Bon, c'est pas trop grave, ça va, c'est...
Non, un mauvais rhume.
Un mauvais rhume?
Ouais.
Mais alors un joli veau, a priori.
Oui, très joli veau.
Alors, racontez-nous, donc il vient de sortir.
Ah, bah, il est sorti il y a une heure, ouais.
Il est sorti il y a une heure.
Ouais.
Et alors, là, la ferme des quatre vaches, c'est ce que l'on disait. C'est quoi le projet, l'idée de la ferme des quatre vaches?
L'idée, c'est de vivre d'un petit élevage.
Alors, ça veut dire qu'on a une belle valeur ajoutée, comme on dit aujourd'hui.
Une très très belle valeur ajoutée, ouais. C'est-à-dire, c'est une valorisation du lait, de la viande et un jour peut-être des peaux et même de la graisse en plein de produits.
Alors, vous êtes ici donc avec les Compagnons de la Terre, donc vous faites partie de ces locataires qui utilisaient donc pour pouvoir expérimenter votre idée.
L'idée, c'est de se dire, voilà, on n'est pas issu du milieu agricole. L'agriculture, ça s'improvise pas, ça s'apprend, mais au long cours. Comme beaucoup, j'ai entamé une reconversion vers la trentaine. Et du coup, voilà, à l'issue de la reconversion, on va dire, théorique, c'était de se dire, j'ai appris plein de choses dans les bouquins. Ouais,
mais les travaux pratiques, faut les faire.
Et même si il y a beaucoup de stages et tout ça, c'est du vivant, quoi. Donc le vivant, ça bouge tout le temps, ça évolue tout le temps. Et pour le maîtriser, il faut du temps. Donc l'idée du lieu, c'est vraiment de nous accueillir pour qu'on puisse... commencer sur une micro-échelle nos activités, se faire la main, et puis voir si ça nous plaît pas, on y arrive, on n'y arrive pas, tout en pensant à l'installation définitive.
Alors donc de jolies vaches, tout est en bio, ça veut dire que le fourrage que nous avons là, évidemment, est bio.
Le fourrage est bio. Et après, l'élevage bio, c'est pas très compliqué. Hein. Ça dépend d'où on part quand on n'est pas bio, mais il s'agit de faire paître de l'herbe aux vaches.
Parce qu'il paraît que ça mange de l'herbe, les vaches.
Oui,
ça,
voilà.
Incroyable.
C'est ça. Non, mais par rapport à du conventionnel, on va le dire industriel, où là, elles mangent des tourteaux, de l'herbe pré-broyée, voilà, des choses pré-broyées, pré-fermentées.
Et du soja OGM dans certains cas.
Du soja OGM dans certains cas, et puis d'autres céréales. Elles font juste que manger l'aliment qui naturellement qui leur convient et c'est pas très compliqué après de l'herbe bio, de la paille bio, des soins bio
et de l'attention.
Et de l'attention, ouais, beaucoup d'attention.
Bah, on vous souhaite quoi? Un veau supplémentaire, c'est ça?
Et ben là on en attend encore 5, ouais.
Ah oui. Que ce projet après devienne une réalité encore plus importante, quoi.
Ouais, que je puisse en vivre. Là, j'en vis pas encore, mais faut pouvoir en vivre.
Poursuivons donc cette histoire humaine, ce chaînage. Je crois que ça nous fait du bien parce que c'est quand même très, très solidaire. Je vous dis pas que tout fonctionne forcément à merveille à 100%, mais non, la réalité, tout le monde est lié, tout le monde va absolument dans le même sens. Donc, autour de Heure, vous avez cet écocide, on va y revenir. Alors, qu'est-ce qui nous manque? On va voir ça avec Perrine Tavernier, qui est toujours notre guide. Ah, ville de Cray, et cette fois-ci, Perrine, changement d'ambiance. Hein.
Et oui, on arrive à Cray, on est mardi matin, c'est le marché hebdomadaire. Et on va prendre un petit temps avec un producteur qui s'appelle Nick, de la ferme de l'auberge. En attendant, là on se promène, on passe devant les épices, les olives. On arrive sur un stand de pâtes fraîches, les ravioles, les raviolis, un peu de jambon cru.
Et bonjour Nick.
Bonjour Nick.
Donc... maraîcher bio, extraordinaire. Et alors, en plus, passionné par l'agroforesterie.
Nous avons fait une demande pour les subventions, le concours de Arbres d'Avenir. On était dans les trois finalistes qui nous a permis de planter nos 2800 arbres forestiers et les 600 arbres fruitiers, dont 300 vignes dedans ça, qui nous a permis de remplir le plein champ avec les haies pour faire les brise-vents et compagnie. Surtout pour le bois de chauffage. Et après, rentrer dans nos rotations de légumes, faire des zones avec les arbres fruitiers.
Et donc, c'est vraiment cet apport, ce mélange qui se faisait d'ailleurs autrefois, il n'y a pas si longtemps.
On n'a rien inventé, non.
Voilà, entre l'arbre et donc aussi la culture.
Oui, carrément. Si c'est bien mené, il y a toujours le problème de...
De l'ombre, quoi qu'il
arrive. De l'ombre, oui. Les branches qui peuvent gêner les passages de tracteurs. Nous, ce n'est pas trop le problème. Le plus grand chose, c'est la moissonneuse qui vient. Après, c'est l'enracinement. Mais ça, avec le travail du sol, de toute façon, on empêche que ça vienne dans la culture.
Qu'est-ce qui vous a fait venir ici?
Moi, c'est la culture, l'acceptation de le bio, parce qu'en Angleterre, ce n'est pas très développé encore. Ce n'est pas très connu et il n'y a pas beaucoup de demandes. Le climat aussi, parce que
ah oui, ça change un peu.
Hein. Ah oui, tout pousse ici, c'est génial.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, Nick?
Que les arbres poussent.
Pierrine Tavernier, là on voit GIE, Aille et Échalote. Alors GIE, groupement d'intérêt donc économique. Bio, là aussi, ou c'est mélangé deux?
Déjà, il faut savoir que dans la vallée de la Drôme, on est un des premiers territoires producteurs d'ail, parce qu'il y a, en tout cas, d'ail semence, parce qu'il y a 60% de l'ail semence qui est vendu en France, qui vient de la vallée de la Drôme. Et donc, ce GIE, à la base, il a été plutôt monté par des agriculteurs conventionnels.
Ouais.
Et progressivement, il y a eu des bio qui se sont intégrés au projet. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que la mixité des agriculteurs bio et conventionnels au sein d'un groupement, ça permet aussi l'échange à travers, au départ, un objectif économique et de commercialisation. Ça les amène à avoir des échanges techniques sur des méthodes de production, sur des outils, avoir des groupes de travail collectifs pour faire de la recherche, par exemple, sur l'impact du compost ou de la qualité du sol, sur les maladies de l'ail, etc.
Oui, donc ça veut dire qu'on ne les oppose pas, au contraire, il y a un brassage qui s'opère.
Oui, voilà, et c'est tout l'intérêt, parce qu'on ne va pas accompagner le développement d'une agriculture durable en opposant les gens ou non. En jugeant les pratiques, c'est pas ça qui fonctionne. Ce qu'il faut, c'est faire du lien, se faire se connaître les gens, et puis se rendre compte que chacun, avec ses contraintes, sa réalité, sa culture, là d'où il vient, fait comme il peut.
Mais le petit bio est devenu grand, alors?
Ah bah oui, c'est ça. Aujourd'hui, au GIE, il y a de plus en plus de producteurs qui sont en bio. Et on voit bien aussi que ça joue sur les marchés. Le marché du bio se développe. Il y a certains marchés qui avant étaient en conventionnel qui sont en train de passer en bio. Donc ça pose aussi des questions.
Il y a des tensions, inévitablement.
Ah ouais, voilà, mais qui sont propres à tous les collectifs.
Alors nous sommes donc là sur l'éco-site. Hein. Ça, c'est quand même assez innovant. Enfin, je veux dire qu'il n'y en a pas 50 en France, des comme ça. Et là, c'est donc le pôle.
Alors ici, c'est le pôle bio. C'est un bâtiment qui va bientôt être inauguré, qui a été construit par la communauté de communes du Val-de-Drôme, dans lequel on trouve deux hangars de 300 mètres carrés au rez-de-chaussée.
Ouais.
Donc il y a la plateforme Agricour dont on parle, qui est basée ici. Et puis au-dessus, il y a une vingtaine de bureaux. Donc il y a l'association Agribiodrôme, il y a l'association Court-Circuit, il y a un groupement d'employeurs qui s'appelle Agri-Travail, il y a un bureau mutualisé entre des chercheurs de l'IRSTEA, de l'INRA, de l'ITAB, qui est en train de se
monter. Ça veut dire que c'est très professionnel maintenant.
Ah ben voilà, le but c'est ça, c'est d'accompagner la professionnalisation, toujours en restant dans cette logique de convivialité, de lien, et toujours en faisant le pari que les projets de développement ils se font surtout autour de la table, au repas de midi ou le matin au café, entre des humains. Quoi.
Alors dans cet éco-site, je me tourne vers une jeune fille, Julia Wright. Bonjour à vous Julia.
Bonjour.
Alors différents projets qui sont tout à fait intéressants. Là je vois juste un dessin d'alambic. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire?
C'est un groupe de producteurs, donc des producteurs de plantes aromatiques et médicinales dans la vallée de la Drôme et un petit peu autour. Des petits producteurs diversifiés qui travaillent beaucoup manuellement, peu de tracteurs, etc. et qui aimeraient avoir un outil adapté à leurs besoins pour transformer leurs plantes en huile essentielle. Mmh. Et donc nous, on travaille à les concerter, les mettre d'accord sur l'outil collectif qui correspondrait à leurs besoins et travailler sur la gouvernance de cet outil-là, quoi. Bah, ils en seront propriétaires et responsables collectivement. Plutôt que d'aller faire des bornes à l'autre bout de la Drôme pour aller chez un distillateur avec des énormes volumes, parce que dans la Drôme, on a quand même des gros volumes de plantes aromatiques et médicinales, faire distiller leurs plantes là-bas, donc aller-retour à chaque fois, aller récupérer l'huile essentielle, ne pas maîtriser le processus de transformation. Là, créer un outil qui leur appartient collectivement, ils ont la maîtrise de A à Z de leurs produits, et donc c'est adapté à leur petite surface diversifiée.
Et puis il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est évidemment celui de la vigne. Ici, on connaît la clairette, entre autres choses. Et donc, évidemment, cette vigne-là, elle est attaquée comme partout. Si vous avez de l'humidité, vous avez donc des champignons, vous avez l'oïdium, vous avez le mildiou. Et aujourd'hui, donc, les méthodes classiques, qui soient d'ailleurs en bio ou en conventionnel, c'est la bouillie bordelaise, autrement dit donc du cuivre d'un côté, et puis du soufre de l'autre. Hein, mm-hmm. Donc c'est autorisé, ça, bien sûr, en bio. Et votre travail, donc, consiste en quoi aujourd'hui? Quelle est votre recherche?
On accompagne les viticulteurs bio qui souhaitent diminuer les doses de soufre et de cuivre dans leurs vignes, notamment par l'usage de plantes sous forme de purin, etc. Purin d'ortie, purin de consoude. Ils expérimentent chacun de leur côté. Donc nous, on les met ensemble, on les fait discuter. Ils partagent leurs expériences. Ils vont de l'avant ensemble.
Bonjour Tibère Vink.
Bonjour Denis.
Alors nous sommes chez vous donc dans ce merveilleux Diwa, à Châtillon en Diwa. Donc nous avons le Vercors d'un côté, on est sur du massif calcaire. Évidemment que ce lieu depuis très longtemps inscrit dans cette bio-vallée, aime les plantes. Alors c'est ce que vous avez fait, avec l'herboristerie du Diwa. Très beau bâtiment d'ailleurs, avec des bardeaux de bois, de mélèze. Oui, bah oui, comme, tant qu'à faire c'est un putrécible, donc autant les utiliser. Et alors donc en fait vous votre passion pour les herbes, ça remontait quand?
Je suis né dedans, mais mes parents sont venus dans les années 70, immigrés en France, des Pays-Bas,
ouais.
Et ont commencé avec une exploitation de chèvres. Et tout doucement, ils ont cherché une seconde activité, et donc ça a été les plantes. Donc tout petit, je suis tombé aussi dans ce monde.
Vous êtes quasiment un bébé du Diwa, ou alors?
Oh, oui, il y a quelques mois près, oui, je suis du Diwa.
Et alors ce qui est très intéressant, c'est que vous essayez évidemment de boucler les choses, donc d'être assez cohérent, au-delà évidemment des herbes bio de qualité que vous sortez. C'est aussi donc d'essayer évidemment d'avoir, j'imagine, la moindre consommation d'énergie, enfin des choses que nous connaissons. Et vous vous intéressez aussi au transport. Et qu'est-ce que vous avez proposé à vos salariés?
Mon père l'a proposé en 95, c'est-à-dire c'est une prime verte. Qui essaye d'inciter les personnes d'avoir un regard un peu plus global sur leur action au quotidien. Et donc là, c'est 75% du temps qui viennent donc à l'entreprise avec un moyen de locomotion non émetteur de CO2. Et ben on les stimule avec une prime de 100 € par mois. Et ce qui tout doucement permet aux personnes ou d'investir dans des beaux vélos ou une voiture électrique ou un autre moyen.
Combien de salariés?
Qui viennent à vélo.
Ouais.
Bon, alors, l'été, on est largement au-dessus de la moitié.
Ouais.
Donc, on a des journées où on a une trentaine de vélos qui sont devant l'entreprise. Et l'hiver, bien sûr, c'est un peu moins. Donc, c'est fonction d'où on habite, aussi la charge des enfants, s'il faut aller les chercher. Mais là-dessus, c'est complètement libre et les personnes, chaque mois décident s'ils peuvent atteindre ces 75%. On essaye d'être très pointilleux, que ce soit dans le choix de la construction de nos bâtiments où on a pu se permettre de faire un éco-bâtiment en allant chercher des petits détails, comme par exemple bois,
oui.
Qui c'est du mélèze coupé dans le Vercors, amené à la scierie à 3 km d'ici et donc posé à l'herbier. Que ce soit la paille qui est aussi locale, qu'on a utilisé comme isolant. On est sur le choix aussi, par exemple, de chacune de nos machines où on essaye de trouver les machines les plus performantes énergétiquement. Donc on essaye vraiment au quotidien d'améliorer au maximum ces petits détails qui font le tout du respect de la nature et de l'empreinte que nous avons au quotidien sur notre environnement.
Comment vous envisagez l'avenir ?
Aujourd'hui, on est en train de passer un nouveau cap qui est, on est passé du bio méconnu qui était vraiment une niche à un modèle un peu plus reconnu. Et donc, la confrontation à la démocratisation de ce modèle qui forcément engendre ces problématiques, qui engendre aussi la discussion des coûts de la production du bio et des entreprises, celle la nôtre, qui essaie d'avoir un respect bien plus pointilleux de nos engagements écologiques et même salariaux, sociaux. Donc forcément, c'est les nouveaux challenges qui nous attendent dans les années à venir pour que les metteurs en marché, les grandes surfaces fassent leur boulot et prennent en considération ces différents points.
Tibère, vous avez combien de plantes là dans ce bâtiment merveilleux? Et ça sent bon, ça c'est incroyable. Ouais.
Et nous avons 350 variétés différentes aujourd'hui. Donc c'est à peu près entre 4000 et 5000 articles. Donc c'est un grand panel de plantes que vous pouvez trouver ici.
Alors est-ce que toutes ces plantes viennent d'ici? Non, pas forcément. Enfin, vous travaillez comment avec les producteurs?
Donc nous-mêmes, nous avons une exploitation agricole sur une vingtaine d'hectares. Sur lesquels ça nous permet de garder les pieds dans la terre et de vraiment bien se rendre compte de la réalité de l'activité. Et ensuite, nous avons des collaborations avec des producteurs locaux, donc où on fait les plantes qu'on trouve dans nos régions, comme la mélisse, le thym, la lavande, la sauge, le romarin. Et pour tous les produits qui sont de pays plus exotiques, comme l'anis étoilé qui vient du Vietnam, ou les épices qui viennent du Sri Lanka, d'Inde, de Madagascar. Donc voilà, on a des matières qui viennent de 27 pays du monde, et qu'on fait venir ici, qu'on transforme, et qu'après on met à disposition de nos clients.
Bon, et bien sûr, donc vous connaissez les producteurs aussi, le soin qu'ils apportent aussi à l'étranger, comme en France.
Bah, c'est une particularité de notre travail, c'est qu'il faut aller voir dans les champs, sur les parcelles, les cultures pour se rendre compte des risques que nous pouvons avoir des contaminations croisées, parce que dans le bio c'est une des plus grandes difficultés. Ouais. C'est-à-dire que l'agriculteur bio est toujours à la merci de ses voisins et qui donc aujourd'hui nous pose quand même d'énormes soucis, donc on va vérifier cela. Et ensuite aussi c'est une collaboration humaine entre un projet d'un agriculteur et un client qui souhaite trouver un produit de la plus grande qualité possible. Donc il est important de tisser un lien très fort.
Voilà, fin de cette belle histoire humaine, enfin, fin radiophoniquement, hein, sinon donc tout va bien. Alors n'hésitez pas, hein, faites circuler, faites tourner, comme dirait l'autre, cette émission sur les sites, donc CO2 Mon Amour, que vous pouvez bien sûr podcaster. Merci à tous dans cette bio-vallée où nous avons, sur le campus de l'éco-site, à Eure, inauguré un nouvel amphithéâtre cette semaine qui s'appelle Jean-Marie Pelt. Et puis il y a aussi un projet de bibliothèque écologique très intéressante, avec des ouvrages du 19e, du 20e, du 21e siècle, qui verra peut-être donc le jour. Merci à Anne-Laure Cochet, à Gilles Gaillard à la technique, à Camille Blanès et à Xavier Pestugia qui a colorisé, qui a donc merveilleusement réalisé cette émission. Muriel Pérez pour les sites, Muriel Pérez pour la musique, Anne Gouzon pour les sites. Et la semaine prochaine, ce sera un débat sur la démographie, avec 3 ou 4 personnes qui viendront ici, et on en débattra, donc démographie et environnement sur France Inter. Je vous souhaite un excellent week-end et dans quelques instants, ce sera la librairie francophone d'Emmanuel Quirade. Je n'oublie pas la Tulu, mon petit loup. Ça, ce sera demain à 19h54.